Connais-tu l'incroyable histoire de la femme qui a inventé l'écoféminisme ? Bienvenue dans Soif de sens, des histoires d'humains qui changent le monde. Chaque semaine, je reçois un invité écolo, féministe ou solidaire pour t'aider à incarner le changement et te redonner foi en l'humanité. Aujourd'hui, on accueille Élise Thiébaud pour parler d'écoféminisme. Salut Élise.
Salut, merci de m'inviter.
Alors, je te présente en 10 secondes. Tu es journaliste, féministe et autrice de plusieurs livres, notamment « L'Amazone verte » sur la vie de Françoise Daubonne, cette femme française pionnière qui a créé le mot « écoféminisme » que tu as rencontré plusieurs fois et qui a eu une vie rocambolesque, digne d'un film en fait. Pour vous donner une idée, elle a été résistante pendant la guerre, militante féministe, anticolonialiste et pour la cause homosexuelle alors qu'elle n'était pas lesbienne, et enfin écolo avant l'heure et même poseuse de bombes. On va en parler. Moi, j'avais très envie de faire découvrir l'histoire de cette femme hors norme parce que, un, c'est un podcast où on parle d'écologie et de féminisme, donc forcément, l'écoféminisme, ça a du sens, c'est-à-dire les similitudes entre comment notre société exploite les sols et exploite le corps des femmes. Et surtout aussi parce que j'ai eu la chance d'interviewer Vandana Shiva et c'est elle qui m'a dit pendant l'interview « Non, mais en fait, c'est une Française qui a inventé l'écoféminisme ». Et je me disais « Waouh, un cocorico, quoi, trop la classe qu'elle soit française ». Et deux, c'est bizarre que j'ai jamais entendu parler d'elle quand même, alors que bien sûr, j'ai encore plein de trucs à apprendre sur le féminisme, mais voilà, j'avais envie de creuser le sujet. Mais effectivement, on a largement oublié cette femme décédée en 2005, qui a quand même écrit une centaine de textes et était pionnière, et maintenant l'écoféminisme revient en force. Toi, Élise, c'est pour ça que ça te tenait à cœur d'écrire ce livre ?
Alors oui, d'abord, j'étais impressionnée par le parcours et le fait qu'elle soit totalement invisibilisée. Oui. Il faut préciser que si elle a conceptualisé l'écoféminisme, elle n'en est pas l'inventrice à proprement parler. J'ai commencé à écrire ce livre le jour de son centenaire et le jour de mon propre anniversaire.
Oui, parce que vous êtes né le même jour.
On est né le même jour, pas la même année évidemment, mais ouais. Oui, moi je suis née en 1962 et elle en 1920. C'est un des très nombreux points communs que nous avons dans notre biographie.
Pour commencer, Françoise Daubonne a eu une vie amoureuse compliquée. Après avoir grandi avec la pauvreté et la faim, elle a eu beaucoup de relations toxiques. D'abord avec des hommes qui abusent d'elle, son éditeur qui lui paye une misère alors que ses livres se vendent très bien et il la viole. Puis avec un écrivain sans succès, marié et jaloux d'elle, qui elle a remporté un prix littéraire. Puis elle tombe enceinte d'un militaire qui la frappe et l'étrangle quand elle décide de le quitter. Donc son mec d'avant propose qu'elle travaille chez lui alors qu'il habite là avec sa femme. Et en fait, il la viole et du coup, ils ont une relation très bizarre. Apparemment, t'avais envie de lui mettre des baffes à ce dernier mec, ce Jean-Charles Pichon.
Oui, bon, après, je n'ai que le point de vue de Françoise Daubonne, mais ce qui est assez étonnant dans notamment cette relation, c'est à quel point leurs deux destins sont parallèles et témoignent du siècle. Françoise Daubonne a inventé trois termes, phallocrate, sexocide et écoféminisme. Et Jean-Charles Pichon, lui, il a popularisé un terme qui n'existait pas non plus avant lui, qui est le mot « dragueur », parce qu'il a été le scénariste du premier film de Mocky, qui s'appelle « Les dragueurs », qui est un film aujourd'hui irregardable. C'est un film sur le harcèlement de rue. Et elle, qui avait une soif de liberté énorme, elle se disait féministe depuis l'âge de 9 ans, eh bien, on peut dire que les hommes qu'elle a rencontrés n'étaient pas vraiment à la hauteur de ses ambitions, ses aspirations légitimes.
Au début, j'étais vraiment surpris de voir une féministe radicale aussi soumise dans des relations toxiques, avant de réaliser que, en fait, on était en 54, Pierre. Enfin, tu l'écris dans le livre, en tant que femme, à cette époque, tu dois obéissance à ton mari, t'as pas le droit d'avoir un compte bancaire, ni de travailler sans son autorisation. L'avortement et la contraception sont interdits, et le viol n'est pas un crime. Voilà. Et en fait, Françoise, elle est comme tout le monde. Enfin, elle est empêtrée dans cette société patriarcale où son ex-mari ne lui versera jamais de pension alimentaire alors qu'il devrait. Un ami lui propose de la loger contre des rapports sexuels quand elle est vraiment dans la galère. Et où elle est tellement mal payée par rapport aux auteurs hommes qu'elle envisage de se prostituer juste pour pouvoir manger, quoi. Et en fait, je trouve que bah, c'est d'autant plus courageux de défendre ses idées radicales quand on subit tout ça, quoi.
Oui, il faut savoir qu'en même temps, à la même époque, on a Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir qui vit librement, qui est à l'hôtel, qui est avec, Sartre, qui a des histoires qui ne tombent pas sur des, dingos toxiques comme Françoise Daubonne.
Enfin, elle est peut-être plus l'exception que la norme de Beauvoir.
Mais alors, Françoise Daubonne, elle a aussi ceci de particulier, c'est que elle n'a pas reçu une éducation bourgeoise, elle n'est pas universitaire, elle est vraiment une franche tireuse. Et avec une soif de vie et d'aventure très particulière. Alors, il y a quand même une fin heureuse à cette histoire-là, c'est-à-dire que après avoir exprimé avec une crudité qui, pour l'époque, est incompréhensible quand elle dit l'hétérosexualité a été ma catastrophe personnelle. C'est quelque chose, à l'époque, personne ne dit ça. Mais aussi, elle dit qu'à un moment donné, elle fait un tournant. À partir du moment où elle cofonde le Front homosexuel d'action révolutionnaire, alors que, comme tu le disais, elle n'était pas elle-même lesbienne, elle décide de devenir une hétérosexuelle synchronique, c'est un mot qu'elle a inventé elle-même, c'est-à-dire de n'aimer que des hommes bisexuels, c'est-à-dire des hommes qui, d'après elle, ont remis en cause le patriarcat et sont donc des alliés de la cause féministe. Mmh. Il se trouve qu'elle va effectivement rencontrer le véritable amour avec des hommes souvent beaucoup plus jeunes qu'elle, à partir de la cinquantaine.
Oui, elle a bien veillé autant dans son engagement que dans sa vie amoureuse.
Oui, alors, après elle s'est radicalisée dans son engagement.
Oui.
Mais voilà, elle a eu une maturité aux alentours de la soixantaine, très heureuse et très riche affectivement et sexuellement. En lisant ses carnets, je me disais, ah oui, quand même. Elle a plus fait l'amour en une semaine que moi dans toute l'année dernière. Jolie performance, je suis très heureuse pour elle.
En 1970, elle a 50 ans quand elle cofonde le MLF, le Mouvement de Libération des Femmes, dont le meeting fondateur du MLF est interdit aux hommes. Mais elle l'annonce surtout une fois que la salle est en train de se remplir et ça crée un énorme tollé avec des mecs dans la salle qui hurlent aux féministes « Vous y arriverez pas sans nous !» Alors que le but, justement, ben, en fait, c'est d'être autonome des hommes, en fait. Donc, bref, il y a même des mecs qui se déguisent en femmes pour rentrer. Et en fait, en non-mixité, il y a quelque chose de magique qui se passe. Tu peux nous raconter ?
Alors, le meeting lui-même n'est pas à proprement parler fondateur, mais c'est celui qui va rester dans les mémoires comme l'expression même de qu'est-ce que c'est la non-mixité et pourquoi on la réclame. Parce qu'en fait, ça a été la grande révélation du MLF, les réunions en non-mixité. Les femmes qui avaient participé très activement à mai 68 et qui étaient très présentes dans les mouvements politiques, n'avaient pas voix au chapitre, n'étaient pas entendues, ne pouvaient pas exprimer ce qui relevait de leurs propres préoccupations. Et c'est seulement dans le contexte de la non-mixité entre femmes qu'elles ont pu dire, par exemple, les violences qu'elles subissaient, la difficulté de s'en sortir avec le travail, avec les enfants. Mais vraiment, le fait de pouvoir exprimer l'humiliation, le sentiment de domination et d'injustice, sans que quelqu'un vous dise, écoute, on en parlera plus tard parce que là, c'est la motion machin dont il faut qu'on parle et il faut qu'on avance parce que c'est comme ça que ça se passait. Voilà, tout à coup, il se passe quelque chose là qui est vraiment magique, qui est transformateur, qui est une forme de catharsis collective qui va se produire. Ces réunions étaient ouvertes, je crois que c'était tous les mercredis soirs, où on pouvait se réunir et parler librement entre femmes.
Oui, tu racontes, bah, les langues se délient et on peut enfin avoir un espace, un safe space où les femmes peuvent raconter ce que tu écris dans le livre. J'ai été violée par mon père. J'ai jamais joui. J'ai avorté 4 fois. Cet enfant-là qui pousse dans mon ventre, j'en veux pas. Ma mère est morte sous les coups. J'aimerais bien partir parce que j'ai un mari violent, mais mais pour aller où ? J'ai dit que j'étais enceinte, le chef m'a répondu, pas la peine de revenir lundi.
Il n'y a pas d'espace pour en parler et c'est au MLF que ça survient, enfin. Et c'est quelque chose dont on ne mesure pas encore aujourd'hui à quel point ça a été important. C'est très important la non-mixité. Il y a d'autres non-mixités hein, qui existent. Personne, ça ne viendrait à l'idée de personne de reprocher à des ouvriers ou des ouvrières de se réunir sans inviter le patron. Hein, ouais, voilà. En fait, on n'invite pas le dominateur, le dominant à la table quand on va discuter de cette domination. Voilà, on en discute entre personnes dominées.
Moi, ça me parle beaucoup de vous raconter ces histoires sur le militantisme parce qu'on a tendance à oublier qu'en fait, on est les héritiers de gens qui sont battus depuis des décennies et qui, avec de belles victoires, une créativité, un courage et des choses vraiment hyper inspirantes et que ça vaut vraiment le coup de se plonger dans ce qui a déjà été fait pour sentir qu'on fait partie d'une lignée d'humains qui se battent pour un monde plus juste et durable. Et notamment cet exemple-là, on va en parler, qui est vraiment une masterclass en termes de créativité. En plein débat sur l'avortement, elle décide de saboter une conférence d'un généticien anti-avortement et anti-contraception, pardon. Elles ont déjà saboté un autre événement, donc elles savent que là, ça risque très fortement de partir en baston entre les flics et les fascistes. Donc elles décident de toutes venir avec des saucissons.
Fameux commando saucisson. Elles cherchent absolument à pouvoir se défendre au cas où ça tourne mal. Le problème, c'est qu'elles ont peur d'être fouillées et donc de ne pas pouvoir entrer dans la conférence. Et c'est là que Françoise Daubonne a cette idée de génie. Elle dit un saucisson sec, c'est aussi dur qu'une matraque. Et on peut pas nous dire que c'est une arme. On n'a qu'à dire qu'on vient parce qu'on a décidé de faire un cocktail, on a acheté du saucisson et puis c'est tout. Personne ne va les fouiller, mais tout le monde va venir avec le saucisson, sauf Françoise Daubonne, qui avec son esprit de contradiction habituel, a changé d'avis. À la dernière minute, elle vient avec un parapluie. Et effectivement, la conférence va totalement dégénérer. Tout le monde va y aller avec un coup de saucisson. À la fin, il et elle, parce qu'il y a aussi des hommes du phare qui sont dans cette conférence, vont se retrouver et pour boire du vin rouge et manger le fameux saucisson après s'en être servi pour taper sur les fascistes.
Oui, avec cette très belle phrase, je ne sais plus exactement, la révolution doit être une fête, sinon elle ne mérite pas d'être faite.
Voilà, exactement. C'est exactement ces termes-là.
Au fil des années, Françoise Daubonne, elle découvre l'urgence écologique avec le célèbre rapport Meadows en 72, qui vient de fêter ses 50 ans, les scandales de pollution massive, etc. Et d'un côté, il y a la surpopulation qui s'accélère, et de l'autre, on épuise les ressources à vitesse grand V, ce qui est un peu précurseur d'aujourd'hui. Et donc, elle se radicalise, notamment contre le nucléaire qui se développe vite en France. À l'époque, le débat est beaucoup moins nuancé qu'aujourd'hui. Et on est en pleine guerre froide, donc le nucléaire, c'est surtout associé à la bombe nucléaire. Et bref, en 1975, avec son dernier amoureux, enfin un mec bien, il décide de faire péter deux bombes artisanales dans la centrale de Fessenheim. Tu peux nous raconter comment ils ont fabriqué ces bombes ?
Alors, il y a deux choses à raconter. Premièrement, le combat écoféministe, partout dans le monde, il s'est vraiment structuré et développé au sein des luttes antinucléaires. 73, c'est la crise pétrolière. Il y a aussi cette volonté en France d'être moins dépendant. Mais tout ça se semble, pour les écologistes, surtout relever d'une logique qui risque de porter atteinte très gravement à la vie. On ne sait toujours pas quoi faire des déchets nucléaires aujourd'hui.
Et puis la Deuxième Guerre mondiale, elle n'est pas si loin non plus. Et là, on est en pleine guerre froide avec les menaces de bombes atomiques.
La guerre mondiale, elle n'est pas loin si on regarde la façon dont ont été racontées à l'époque dans des journaux, y compris progressistes comme l'Humanité, le largage des bombes sur Hiroshima et Nagasaki. Tout de suite, on considère ça comme un coup d'essai pour produire l'énergie nucléaire qui va...
C'est un progrès scientifique, quoi.
Voilà, c'est progrès scientifique déjà à l'époque. Et il y a une mobilisation très grande qu'on a oubliée hein, contre ces centrales nucléaires, c'est vraiment assimilé à la catastrophe. La catastrophe possible et l'angoisse de la guerre froide. De... Voilà, on se dit, il y a une bombe qui tombe sur une centrale, qu'est-ce qui se passe ? C'est, bah, la question, elle est toujours valable. Il y a beaucoup de mobilisation locale et l'État ne tient aucun compte de ces oppositions. Et Françoise Daubonne, avec Gérard Hoff, qu'elle vient de rencontrer, décide de faire un coup d'éclat. Et sur le chantier de Fessenheim, la centrale n'est pas en activité. Il n'y a évidemment pas de charge nucléaire sur place. Ils prennent soin de poser ces bombes, ces explosifs artisanaux qu'ils ont trouvés sur des chantiers. Enfin, c'est un truc complètement dingue.
Ils se baladaient sur une vingtaine d'autres chantiers la nuit pour... Récupérer des bâtons de dynamite.
Même de quoi faire des bombes, tout en se baladant dans une 4L orange, qu'ils appelaient orange mécanique.
Ils avaient acheté un petit manuel au rayon sciences physiques chez Gibert, comment fabriquer ces explosifs. Quoi.
Exactement, oui. Donc ils ont fait ça, ils se sont évidemment assurés... qu'il n'y avait personne, ils ont téléphoné avant que la charge n'explose pour expliquer que ça allait exploser, etc., etc.
Oui, que ce soit évacué.
Il n'y avait personne sur le chantier, ils ont signé, ils ont fait une revendication. N'importe qui connaissait un tout petit peu la prose de Françoise Daubonne ne pouvait que voir immédiatement que c'était elle qui l'avait écrit.
Oui, parce qu'ils n'ont jamais été soupçonnés et jamais été arrêtés, en fait. C'est ça qui est le plus incroyable.
C'est assez étrange parce que c'est quelqu'un qui a été beaucoup surveillé, Françoise Daubonne. Elle était vraiment dans les milieux radicaux depuis la guerre d'Algérie, hein, où elle avait signé le manifeste des 121 pour l'insoumission.
Oui, ça en fait, on l'a vraiment découvert grâce à ses carnets personnels, mais découvert après sa mort. Hein.
Oui, je pense qu'il y avait pas mal de personnes qui le savaient un petit peu parce que voilà, Françoise Daubonne piétinait de ne pas pouvoir dire qu'elle avait fait ça parce que c'était vraiment un grand moment d'excitement pour elle, d'excitation. Donc tout le monde le savait plus ou moins, mais personne ne disait rien parce qu'évidemment, ça tombait sous le coup de la loi de manière assez radicale.
Ouais. Je ne dis pas que je cautionne ça ou non, c'est pour vous montrer la complexité du personnage.
Oui, bon, enfin, il ne s'agit pas du tout de cautionner ou pas cautionner, c'est de surcroît, par exemple, on parle de terrorisme, en l'occurrence, là, ils n'ont pas fait ça pour terroriser les gens. Enfin, quand on jette une bombe sur des personnes, quand on les prend en otage, quand on les fusille...
Ah oui, là, c'est que des dégâts matériels, ça n'a rien à voir.
À la terrasse d'un café, oui, c'est du terrorisme, mais c'est fait pour terroriser, pour faire que les gens, en sortant de la rue, aient peur. Là, en l'occurrence, le fait que des explosifs soient placés sur un chantier et retardent ce chantier d'un an, ça ne terrorise personne. Mmh. Des gens se posent la question de est-ce que c'était la bonne méthode ? Est-ce qu'on donne un bon signal ? Est-ce que ceci, est-ce que, comme on le fait dans les domaines politiques ? Mais on ne peut pas dire qu'il y a du terrorisme. Il n'y a aucune atteinte aux personnes. Ça, c'était très, très clair que pour elle, c'était hors de question. En revanche, ça relève de ce qu'elle appelle et qu'elle a théorisé de la contre-violence par rapport à celle de l'État. Elle fait partie de cette génération qui a été résistante. Ils ont pris les armes pour défendre la liberté. Ça leur semble légitime. Ça ne leur pose pas de problème de dire on nous fait une guerre. Il y a une oppression qui est là. S'il faut se défendre par les armes, on se défendra par les armes. Et aujourd'hui, c'est considéré, enfin, ça a été évidemment diabolisé pour le coup, qui fait qu'aujourd'hui, on considère que avoir une action radicale, se battre, résister, aller au contact, c'est quelque chose d'impensable. Mais pour cette génération-là, ça n'était pas du tout impensable.
Alors, la question à 1 million d'euros, c'est quoi l'écoféminisme ? Écrit, c'est pas manger bio en lisant Simone de Beauvoir ou Virginie Despentes. Non, l'écoféminisme, c'est penser qu'il y a un lien entre l'exploitation des femmes et de la planète, car les hommes, plus exactement le patriarcat, par les hommes, ou plus exactement le patriarcat. C'est quoi ce lien exactement ? C'est quoi ce rapport ?
Alors, pour commencer, il n'y a pas un écoféminisme, l'écoféminisme, il y a des écoféminismes. Certains écoféminismes sont très imprégnés de spiritualité, d'autres sont très matérialistes.
Okay.
Il existe un féminisme, un écoféminisme autochtone, décolonial, qui met l'accent sur la surexploitation des terres et des peuples liés à la colonisation. Donc, l'écoféminisme, c'est effectivement considérer qu'il y a un lien, en tout cas comme mécanique de base, il y a un lien. Mmh. Disons que c'est la même, c'est dans le même mouvement que le patriarcat opprime les femmes et la nature, grosso modo, dans une logique de prédation et de négation du vivant. Les écoféministes conduisent à se réinterroger sur la place du vivant, la place de nos actions quotidiennes et de la subsistance. La question, on parle d'un écoféminisme ou d'une écologie de la subsistance, qui fait dire par exemple à quelqu'un comme Vandana Shiva que vous avez interviewé, si on veut faire de la politique écoféministe, eh bien, faut cuisiner. Mmh. Il faut savoir d'où viennent les aliments, qu'est-ce qui est important pour notre vie, et relocaliser, par exemple, la production agricole dans une logique non pas de surproduction, on va faire de la monoculture du tabac pour l'importer. Enfin bon, il y a des...
Non, mais d'autonomie.
En fait, tout est marchandisé. En fait, c'est ça, une des choses qui est vraiment remise en question dans l'écoféminisme, c'est la notion que... C'est la notion même de production capitaliste qui monétise le vivant, qui privatise le
commun.
Vivant, qui brevette l'ADN, ce qui est quand même complètement dingue, qui produit des graines stériles pour qu'on les achète et qu'on s'endette. Donc 1974, c'est dans un livre qui s'appelle « Le féminisme ou la mort ». Qu'elle écrit, qu'elle invente l'écoféminisme. Si elle choisit d'écrire ce livre, c'est parce que elle pense que l'analyse est incomplète, que si on ne met pas la question de la domination patriarcale envers les femmes au cœur de la réflexion, ça ne changera rien. Elle part du principe que la domination des femmes est la matrice de toutes les autres formes de domination, y compris la logique de prédation capitaliste qui amène à une surexploitation des terres en considérant que les ressources naturelles sont inertes et qu'on peut les exploiter à l'infini. Ça, c'est quelque chose de totalement nouveau pour l'époque et que personne n'a véritablement pensé avant elle. Même dans les milieux très avancés ou très écolos, on considérait que l'égalité entre les femmes et les hommes, c'était une question annexe, anecdotique, à laquelle on viendrait naturellement une fois qu'on aurait fait le reste de la révolution.
Oui, pour Françoise Daubonne, le but justement, c'est de prendre le pouvoir aux hommes, mais pas pour le redonner aux femmes, pour le détruire et mettre en place une autogestion, quoi. Sinon, on fait juste reproduire le modèle de l'oppresseur, ce qui est absurde.
Il s'agit de détruire toutes les dominations. Donc tout le pouvoir qui s'exerce d'abord sur les femmes, mais
oui, ensuite, sur les animaux, sur les sols. Tu vois.
Exactement. Et détruire ce pouvoir, non pas pour le prendre, non pas pour le renverser ou le remplacer par un autre pouvoir, mais vraiment mettre en œuvre une organisation et une société comme elle a pu, on le sait aujourd'hui, exister pendant des siècles, voire des millénaires.
Oui, les sociétés n'ont pas toujours été patriarcales, et je crois que c'est justement un des premiers livres de Françoise Daubonne qui avait marqué ta mère et qui était dans sa bibliothèque.
Oui, alors dans la société n'a pas toujours été patriarcale, et ça, ce sont les penseuses écoféministes qui l'ont démontré, qui ont contribué largement à le démontrer. Le patriarcat n'est pas l'alpha et l'oméga de toute organisation humaine. Il y a encore d'autres formes d'organisation qui sont coopérative, harmonieuse, qui ne repose pas sur la domination.
L'exploitation.
La domination, même avant ça, la domination et la violence et la hiérarchie, en fait. L'idée, vraiment, qui est au cœur de l'écoféminisme, c'est de remettre en cause la notion de hiérarchie, et ce qui est vraiment fondamental dans le patriarcat, et de dire, oui, on peut vivre une société sans hiérarchie. Alors, c'est très anarchiste, Mais c'est, ça relève du changement de paradigme. Elle disait, Françoise Daubonne, il n'est même pas question de révolution, il est question d'opérer une mutation. Et cette mutation, il faut qu'on l'opère maintenant, parce que l'effondrement, il est là, on ne va probablement pas pouvoir l'empêcher. Par contre, on va peut-être pouvoir s'organiser de manière à le traverser.
J'adore quand tu dis, si vous avez en tête l'image d'une féministe idéale, dites-vous qu'elle était exactement le contraire. Parce que Françoise Daubonne, ça avait l'air d'être vraiment un personnage, quoi. Tu le vois dans ses interviews, c'est une grande gueule. C'est une grande gueule. Elle n'était pas toute parfaite. Elle raconte, par exemple, qu'elle s'est très peu occupée de ses enfants, comme beaucoup de pères, en fait.
Oui, elle dit ça parce que, bon, elle a cette formule, la grosse punchline. Je me suis, effectivement, ses enfants ont été élevés par sa famille. Alors, elle dit, mais moi, j'ai gagné ma vie, j'ai payé... pour leur éducation, je suis allée les voir tant que je pouvais, je leur ai transmis ce que je pouvais.
Oui, c'est toujours assuré qu'ils étaient bien, quoi.
J'ai été un très bon père. Mais c'était vraiment extrêmement mal vu à l'époque de ne pas avoir ses enfants. On ne peut pas nier que ça a probablement été aussi assez mal vécu par ses enfants à certains moments de leur vie. Alors je pense qu'elle a énormément aimé ses enfants, mais que
de loin, quoi.
Mais qu'elle ne s'en est effectivement pas occupée comme on s'attendait qu'une mère s'occupe de ses enfants.
Tiens, dites-nous un truc que vous retenez de la vie de Françoise Daubonne en commentaire YouTube ou en story Instagram. Au-delà de ce livre, tu as notamment écrit plusieurs livres, dont le best-seller « Ceci est mon sang », petite histoire des règles de celles qui les ont, donc les menstruations, et de ceux qui les font. Et plus récemment, tu as lancé une nouvelle lune, une newsletter féministe, queer, rebelle et écologique, avec un crowdfunding en cours. Tu peux nous en dire plus, Élise ?
Alors, c'est une idée que j'ai depuis extrêmement longtemps. Bon, j'ai toujours été passionnée poétiquement par les cycles et par la lune. Et j'avais cette idée, il y a très longtemps, de produire des textes courts. Il y a eu un concours de circonstances qui a fait que j'ai rencontré les éditions Au Diable Vauvert et sa fondatrice Marion Mazori. Je lui ai raconté cette idée que j'avais eue et elle me dit « mais c'est super, on va le faire ». Et donc voilà, on va le faire, ça va être 12
Ah bon, textes. Oh, bah d'accord.
Ok, on va le faire. Il y a un engagement de la maison d'édition, mais pour vraiment développer le projet, on a besoin de ce crowdfunding. L'idée, c'était de donner corps à des textes, à des récits qui permettent d'imaginer d'autres possibles. Françoise Daubonne, elle-même, elle disait « on peut changer toutes les lois du monde tant que le mythe contredira la loi ». C'est le mythe qui gagnera. Ce qu'il faut, c'est de nouveaux récits, en fait.
Oui.
Et j'avais envie de faire ces nouveaux récits et j'avais envie aussi qu'ils soient très accessibles et qu'il n'y ait pas le frein de l'argent. Donc, on a 12 textes, probablement même 24, mais en tout cas 12 textes par an en numérique, c'est-à-dire qui arrivent dans votre boîte aux lettres sous la forme d'une newsletter. À prix libre, si le texte nous plaît beaucoup et qu'on en a les moyens, on peut donner de l'argent pour le projet ou pour l'autrice qui l'a écrit. Et deux fois par an, on a aussi eu envie de faire des textes papier, eux aussi relativement courts. Le premier que nous allons publier sera la réédition du Sexocide des sorcières, qui était un texte d'intervention, un pamphlet très fort de Françoise Daubonne, qui sera préfacé par Taous Merakchi, alias Jack Parker, une autrice extraordinaire qui a aussi écrit un livre qui s'appelle Witch Please sur la sorcellerie.
Oui.
J'avais envie de se rencontrer ces deux sorcières, l'une très contemporaine et une autre qui a été là aussi à l'avant-garde. On l'a peut-être pas assez dit, mais Françoise Daubonne, c'est une grande visionnaire. C'est quelqu'un qui a vraiment vu tout ce qui est en train de se passer aujourd'hui.
Merci Élise. Si tu veux lire l'Amazone verte ou participer au crowdfunding de Nouvelle Lune, je te mets les deux liens en description. Et si tu veux creuser l'écoféminisme, je te conseille évidemment l'épisode avec l'unique Vandana Shiva. Ciao !
Salut, merci !